Alors bien chers amis, nous entrons dans l'approfondissement du deuxième chapitre de Veritatis Splendor. Je vous ai déjà averti, ce chapitre est le plus difficile. Mais si l'on prend le temps de bien approfondir la pensée de Jean-Paul II, cette partie difficile pourrait devenir enseignement lumineux, chemin de vie. Donc c'est ce que nous allons essayer. Carole Wojtyła, dans son livre « Chef-d'œuvre, personne et acte », a fait des analyses lumineuses sur le mystère de la liberté humaine. Il a utilisé des mots difficiles pour décrire ce mystère. Auto-possession, auto-maîtrise, auto-détermination. L'auto-possession est l'intégration dans l'unité de la personne du physique, de l'affectif, du moral et du spirituel. Nous sommes une personne humaine avec un corps et une âme, et l'autopossession, mais c'est toute cette intégration. L'automaîtrise est la pleine maîtrise par la personne des facultés de son corps et de son âme. L'animal ne jouit pas de l'automaîtrise, l'animal est déterminé par ses tendances. La personne ne doit être déterminée par aucune tendance, elle doit décider librement de ses actes. Donc, auto-maîtrise. Et puis, le troisième mot, c'est auto-détermination. Donc, l'auto-détermination, c'est la décision personnelle qui ne dépend que de la personne. Cette décision ne dépend pas d'une autre personne, c'est la personne qui se détermine pour tel ou tel acte. Ces trois mots s'éclairent l'un l'autre et permettent de mieux pénétrer le mystère de la liberté de l'homme. Carole Wojtyła était convaincue que l'être humain était une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Son être était cependant limité par le fait de sa création. La liberté de l'homme ne pouvait donc pas être conçue comme une liberté absolue, car Dieu seul possède cette liberté absolue. Mais la liberté de l'homme est la liberté d'un être humain qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà, ça c'est un petit peu la philosophie de la liberté de Carole Wojtyła. Jean-Paul Sartre, philosophe existentialiste, enseignait que l'existence précéder l'essence. Alors pardon de vous dire des choses un peu difficiles ce soir, mais tout ne sera pas si difficile. Hein. Donc Jean-Paul Sartre enseigne l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que cela signifie? Pour Jean-Paul Sartre, notre liberté ne serait pas limitée par une essence ou une nature, car c'est nous qui décidons de ce que nous serons. Nous retrouvons cette pensée de Jean-Paul Sartre dans la théorie du gender. Cette conception est de fait contraire à la réalité. Nous ne sommes en effet ni des dieux, ni des anges, ni des animaux, mais nous sommes des êtres humains. En outre, nous sommes, de par notre naissance, hommes ou femmes. Nous ne pouvons devenir de fait que ce que nous sommes. Ces théories de Jean-Paul Sartre et de gender sont marquées, en fin de compte, comme le péché originel, par l'orgueil de vouloir devenir Dieu. Or, la réalité ne peut être niée. Nous ne nous sommes pas donné notre existence, nous ne nous sommes pas donné notre liberté, nous les avons reçues, nous ne pouvons pas nous affranchir de cette vérité. Alors ça, c'est un présupposé, avant d'aller plus loin, dans la distinction liberté-loi que va faire Jean-Paul II. Avant d'aborder encore l'encyclique, l'enseignement du CEC, hein, puisque dans l'introduction de son encyclique, Jean-Paul II a dit qu'il avait voulu donner cette encyclique en 1993 après la parution du CEC. Parce que dans le CEC, la partie morale a donné l'enseignement fondamental sur la morale, et donc l'encyclique présuppose tout cet enseignement du catéchisme de l'Église catholique. Donc du numéro 1701 à 1715, nous avons un développement sur la liberté. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu possède, dit le catéchisme, une dignité bien supérieure à tous les autres. Il a une âme spirituelle et immortelle, une liberté. Il est appelé au bonheur, dont le fondement est Dieu et non la créature. Le fondement du bonheur de l'homme, ce n'est pas la créature, c'est Dieu. La liberté est un grand don de Dieu. Elle appelle à la responsabilité de ses actes, dont nous devrons rendre compte. L'histoire du salut révèle le mystère de la liberté. Le péché originel a eu des conséquences dramatiques sur la liberté de l'homme qui devient esclave, esclave du péché. L'homme pécheur a besoin d'un rédempteur pour le libérer de cet esclavage. Ce rédempteur est donné par Dieu à l'humanité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui, par la croix, nous libère de l'esclavage du péché et de Satan. Les traces de la rédemption, cependant, ne nous exemptent pas du combat spirituel de chaque jour pour mener ce combat, et pour demeurer dans la liberté des enfants de Dieu, nous avons absolument besoin de la grâce. Cette dernière est donc un nouveau don de Dieu qui n'empêche pas l'exercice de notre liberté, mais qui la protège. C'est Dieu unique qui crée notre liberté, et c'est Dieu qui nous donne la grâce pour ne pas retomber dans l'esclavage du péché. Alors ce rapport liberté-grâce est un rapport tellement difficile que l'Église n'a encore pas tranché la question, et que l'Église avait demandé aux jésuites et aux dominicains et aux franciscains de ne pas continuer à se disputer théologiquement sur cette question. Voilà, c'est une question très compliquée dans l'Église, mais ce que nous pouvons dire, c'est que Dieu nous donne la liberté et Dieu nous donne la grâce. Et que les deux, non seulement ne se combattent pas, mais sont en vue d'une liberté supérieure. Alors abordons la question difficile maintenant de la liberté dans l'encyclique Veritatis Splendor. Je vais essayer de vous l'expliquer du mieux, mais je peux vous dire que si vous prenez ensuite, après la session, le texte, il faudra transpirer, prendre un stylo et deux aspirines, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais voilà, hein, donc c'est difficile. C'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que le pape parle aux évêques. Le pape ne va pas faire le traité. Il faut suivre un cours après. Hein. Donc le pape parle aux évêques et donc donne l'essentiel. Jean-Paul II n'a pas cherché à répondre à toutes les questions sur le rapport liberté-loi. Il s'est efforcé de répondre à une seule. Peut-on être libre et soumis à une loi? Dans la mentalité moderne, la loi semble empêcher l'autonomie de la liberté. L'encyclique va faire découvrir que l'homme est bien libre, mais qu'il est soumis à une loi, la loi naturelle que sa raison découvre et promulgue. Donc, efforçons-nous de suivre le raisonnement de Jean-Paul II. Premièrement, Jean-Paul II affirme l'autonomie de la liberté humaine. Parce que, si vous voulez, c'est très important dans notre conception moderne de bien dire l'homme est autonome. Sinon, notre discours sera complètement refusé. Alors nous avons cela du numéro 35 à 45 de Veritatis Splendor. Le pape se fonde sur l'Écriture sainte. Il est dit dans le Siracide, Dieu a voulu laisser l'homme à son conseil. Siracide 15, 14. Dans le Nouveau Testament, il est affirmé une autonomie supérieure par Jésus-Christ qui nous a libérés du péché par la loi de la rédemption et nous a envoyé l'Esprit Saint qui habite en nous en inscrivant en notre âme spirituelle la loi de l'Esprit. Et donc chez Saint Paul, l'homme baptisé et l'homme libre, ils participent à la liberté des enfants de Dieu. La tradition morale sur laquelle se fonde Jean-Paul II témoigne de l'autonomie de la liberté humaine. Pourquoi ? L'homme est autonome parce qu'il possède en lui-même sa loi. Ça, c'est le numéro 40 de Veritatis Splendor. Cette loi est appelée la loi naturelle parce que la raison qui la promulgue est précisément la raison de la nature humaine. Mais cette loi naturelle n'est pas créée arbitrairement par la liberté humaine, elle est une participation de la loi éternelle. Alors Jean-Paul II rejette le mot « hétéronomie », c'est-à-dire que si cette loi naturelle était une hétéronomie, hétéros, c'est-à-dire d'un autre, nomos, la loi. Ça voudrait dire que je ne suis plus libre, puisque c'est la loi d'un autre qui s'impose à moi. Donc, Jean-Paul II dit, il ne faut pas parler d'hétéronomie pour parler de la loi naturelle. Pourquoi ? Cette loi n'est pas imposée arbitrairement et par contrainte à l'homme, et c'est pour cela qu'il est mieux d'adopter l'expression théonomie participée. Alors, théo, Dieu, nomos, loi, donc c'est la loi de Dieu participée. Ce mot « loi de Dieu participée » eh bien, veut nous signifier que cette loi est assumée par la raison humaine, qui la reconnaît comme la loi de sa nature en vue de son vrai bonheur. Avec la tradition, Jean-Paul II affirme que la liberté de l'esprit réside dans l'obéissance libre à la loi naturelle. Je vous reparlerai un petit peu aussi de la Commission théologique internationale qui a donné un texte très important il y a 2 ans sur la loi naturelle. Et donc il est très, très important de comprendre ce que l'Église veut nous faire comprendre. C'est-à-dire, pour bien montrer que cette loi ne nous est pas imposée par un volontarisme divin qui ne serait pas rationnel, eh bien, il faut bien dire que cette loi, c'est la loi que ma raison a découverte et que ma raison comprend que c'est la vraie loi de ma nature humaine. C'est pour ça que c'est très important de le comprendre. Il faut du temps pour le comprendre. Il faut du temps, mais c'est capital. Sinon, on va aboutir à un rejet de la loi naturelle. Vous voyez bien, aujourd'hui, dans toutes les questions de bioéthique, toutes les questions concernant la vie humaine, etc., on refuse le fondement de la loi naturelle. Et on le refuse parce que, on dit, elle nous est imposée de l'extérieur. C'est pas la loi de notre personne humaine. Vous comprenez ? Alors, Jean-Paul II, ensuite, dans les numéros 46 à 50, a présenté certaines erreurs actuelles sur l'autonomie de la liberté, erreurs qui sont enseignées en théologie morale et qui opposent liberté et nature. La nature, pour ces théologiens moralistes, ne serait qu'un matériau de l'agir humain. La liberté utiliserait ce matériau comme le sculpteur se sert d'un bloc de pierre pour sculpter sa statue. Jean-Paul II était conscient des graves conséquences de cette erreur. Si la liberté peut utiliser la nature humaine comme elle l'entend, pour devenir l'être tel qu'elle veut, on retombe dans la même erreur que celle de Jean-Paul Sartre, l'existence précède notre essence. Donc je fais ce que je veux de ma nature, si vous voulez. On dira que la liberté n'entre pas dans la question du bon corps, la liberté n'entre que dans la question de mon esprit. La réponse de Jean-Paul II va être très analytique, très précise, développée en 2 parties, concernant la nature de l'homme et concernant l'essence de la loi naturelle. Alors d'abord, première partie, concernant la nature de l'homme. Jean-Paul II s'est appuyé sur 2 sortes d'arguments, arguments anthropologiques et arguments tirés de l'Écriture sainte et de la tradition. par des arguments anthropologiques, il a montré que ceux qui dissocient liberté et nature font du corps quelque chose d'extrinsèque à la personne. Une telle dissociation n'est pas conforme à la vérité sur l'homme. Le corps n'est pas pour la liberté un bien pré-moral, donc qui n'entrerait pas dans la moralité, si vous voulez, qui, analogiquement, ressemblerait en quelque sorte au matériau dont se sert le sculpteur en vue de la statue. Par le corps, dit Jean-Paul II, la personne s'exprime. L'âme spirituelle est par elle-même et essentiellement la forme du corps, c'est-à-dire, elle anime ce corps, elle forme un tout avec ce corps, on ne peut pas les dissocier. Il n'existe pas de personne humaine sans âme spirituelle animant un corps. La mort, certes, sépare ces deux co-principes que sont le corps et l'âme spirituelle, mais la résurrection les réunira. Il faut donc affirmer, en se fondant sur cet argument anthropologique, dit Jean-Paul II, que la personne humaine comporte une structure spirituelle et corporelle déterminée, elle n'est pas réductible à une liberté qui se projette elle-même. Une image peut vous aider à comprendre cela. La personne n'est pas seulement l'âme spirituelle, qui serait par rapport au corps ce que le cavalier serait par rapport au cheval. Le cavalier peut changer de cheval. L'âme spirituelle ne peut pas changer de corps. L'âme spirituelle et le corps qu'elle informe forment un tout, la personne humaine. Le corps est donc une partie intégrante de notre être. Le respect dû à la personne humaine entraîne nécessairement le respect dû à son corps. Alors tout cela, on y reviendra encore demain, mais vous voyez les conséquences très graves. Parce que si ma liberté n'est que dans mon âme spirituelle, peu importe tout ce que je fais avec mon corps, on vous dira, ben, c'est pas grave, c'est une déviance, etc., l'homosexualité, tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance puisque ça touche que le corps. Hein? Vous comprenez la gravité de ces erreurs de théologie morale. Jean-Paul II, ensuite, affirme des arguments tirés de l'Écriture sainte et de la tradition. Il cite saint Paul, 1 Corinthiens 6, 9, et il cite le Concile de Trente pour dire que certains comportements spécifiques sont à mettre au nombre des péchés mortels ou des pratiques infâmes, et leur acceptation volontaire empêche les croyants d'avoir part à l'héritage promis s'ils ne se convertissent pas. N'ayons pas peur de citer cette affirmation énergique de Jean-Paul II au numéro 49, car il y va du salut des âmes. Le corps et l'âme sont indissociables, ils demeurent ou se perdent ensemble. La deuxième partie de la réponse de Jean-Paul II concerne l'essence de la loi naturelle. Elle se compose de trois développements. La loi naturelle de la personne humaine, la loi naturelle universelle et immuable de toutes les personnes humaines, et le Christ, fondement ultime de la loi naturelle immuable. Alors, premier développement, la loi naturelle de la personne humaine. Jean-Paul II explique à nouveau, alors vous comprenez la pensée de Jean-Paul II, hein. Jean-Paul II n'est pas un cartésien. Donc, ce n'est pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est un développement en spirale. Alors, ce développement en spirale est difficile à saisir, mais en même temps, il est très riche, parce que chaque fois, Jean-Paul II va donner un autre développement qui nous éclaire sur ce qu'on a déjà vu précédemment. La loi naturelle, donc, de la personne humaine. Jean-Paul II explique à nouveau le vrai sens de la loi naturelle. Elle n'est pas extrinsèque à l'homme, hein, donc extérieure à lui, mais elle est une loi, elle n'est pas une loi hétéronome qui lui vient d'un autre, mais elle est la loi de sa personne humaine, dans l'unité de son âme et de son corps, que l'on peut ainsi définir ordre rationnel, selon lequel l'homme est appelé par le Créateur à diriger et à régler sa vie et ses actes, et en particulier à user et à disposer de son corps. Alors vous trouverez cela au numéro 50, donc de l'encyclique. Il me semble important de vous citer ce texte de la Commission théologique internationale dont je viens de vous parler, qui a été publié en 2009 sur la loi naturelle. Et il vous permettra de mieux comprendre ce que voulait signifier Jean-Paul II lorsqu'il disait que la loi naturelle était la loi de la personne humaine. Au numéro 30 du texte de la Commission théologique internationale, il est dit que l'homme moderne qui rejette la loi naturelle s'est insurgé de fait contre cette interprétation erronée, c'est l'autorité et non la vérité qui fait la loi. Il y a eu toute une... Dans le développement ensuite scolastique, un certain combat entre la volonté et l'intelligence, et ensuite on a voulu parler, vous voyez, de ce volontarisme divin. Donc c'est l'autorité qui fait la loi et non la vérité. Et bien ça a été une grave erreur, parce que vous allez voir ce que voulait dire la CTI. Si l'autorité fait la loi, celle-ci pourrait être arbitraire. Mais si la vérité fait la loi, celle-ci ne peut être que conforme à la raison. Ça, c'est très important. C'est très important. Qu'on s'arrête au feu rouge ou au feu vert, après tout, c'est la loi, c'est la loi. Mais il faut que la loi naturelle, elle soit conforme à la raison. C'est difficile à comprendre, mais il faut le comprendre en profondeur, parce que ça, c'est primordial. Pour saint Thomas d'Aquin, tout ce que la vérité, tout ce que Dieu a créé est intelligible. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout a une raison d'être, tout est conforme à la sagesse. Dieu ne peut pas se contredire. Son intelligence et sa volonté sont un en lui. La loi naturelle, participation de la loi éternelle en Dieu, est donc une œuvre de l'intelligence et de la volonté de Dieu. Il faut aussi préciser que la raison humaine ne crée pas cet ordre rationnel. La définition donnée par Jean-Paul II le dit très clairement, c'est un ordre rationnel, mais cet ordre rationnel, la raison humaine le découvre comme venant du Créateur, et la raison humaine comprend que cet ordre rationnel lui permet de diriger et de régler ses actes conformément à sa dignité, en vue d'user et de disposer de son corps. Je sais que ce que je dis là est difficile, mais c'est fondamental. Oui, si on veut que l'humanité re-accepte petit à petit la loi naturelle et qu'on mette la loi naturelle comme fondement de tout l'ordre des lois positives, il faut absolument qu'on fasse découvrir que la loi naturelle est de l'ordre rationnel et non pas de l'ordre de la volonté uniquement. Le deuxième développement de Jean-Paul II concerne la loi naturelle universelle et immuable qui concerne toutes les personnes humaines, numéro 51 à 53. Jean-Paul II cite saint Augustin pour donner le fondement de cette affirmation traditionnelle. La loi naturelle est immuable et universelle. Pourquoi? Parce qu'elle est inscrite dans le livre de la lumière qu'on appelle vérité. Quel est ce livre pour saint Augustin? Dieu, bien évidemment. De la vérité qu'est Dieu, cette loi passe dans le cœur de l'homme par mode d'impression, comme l'effigie du sceau va se déposer sur la cire sans quitter le sceau. Comprenons l'importance de cette affirmation de saint Augustin. Que deviendraient les droits de l'homme s'il n'y avait pas de loi naturelle, universelle et immuable pour les fonder? Sans loi naturelle, nous tomberions dans le subjectivisme et l'arbitraire. L'enfant dans le sein de sa maman ne serait plus protégé. L'homme deviendrait réellement un loup pour l'homme. Le rejet de la loi naturelle universelle qui caractérise le relativisme éthique actuel a donné naissance aux cultures de la mort et aux dictatures du relativisme. Mère Teresa avait bien raison. Si l'on a le droit de tuer l'enfant dans le sein de sa maman, qui vous empêchera de me tuer ? Les droits de l'homme ont absolument besoin d'être fondés sur ce socle solide et universel qu'est la loi naturelle qui vaut pour tous les hommes, qui vaut pour tous les temps. Donc, universel pour tous les hommes, immuable pour tous les temps, parce qu'elle ne peut pas changer. Pour Jean-Paul II, les commandements de Dieu sont au service de la communion authentique des personnes. Et ces commandements manifestent l'universalité et l'immutabilité de la loi naturelle. Les commandements formulés négativement, hein, donc il y a deux sortes de commandements, donc formulés négativement, tu ne tueras pas, hein, ou formulés positivement, tu honoreras ton père et ta mère. Donc les commandements formulés négativement obligent toujours et pour toujours, donc en latin, semper et pro semper, car ils sont les limites inférieures au-dessous desquelles l'homme ne vit plus en conformité avec la loi de sa nature. Donc, un commandement formulé négativement, il n'y a pas d'exception. Les commandements formulés positivement, donc tu honoreras ton père et ta mère, n'ont aucune limite supérieure, car l'amour n'a pas de limite. Pour entrer dans la vie éternelle, dit encore Jean-Paul II, il faut observer tous les commandements. Cela est possible, dit-il, car personne ne peut être forcé de faire le mal. Mais Jean-Paul II savait que l'homme était conditionné par la culture dans laquelle il vit. Ce conditionnement, cependant, n'est pas un déterminisme absolu. Comme Jésus, l'homme peut aller contre le contexte social et culturel de son temps. Notre culture moderne est favorable à la contraception, à l'avortement, à l'euthanasie. Ce conditionnement ne contraint pas les libertés de tous les hommes. Certains, hélas une minorité, n'ont pas peur d'aller à contre-courant et d'affirmer par leur témoignage le caractère immuable et universel de la loi naturelle. Alors, rassurez-vous, on arrive bientôt à la fin. Le troisième développement de Jean-Paul II concerne le Christ. En tant que fondement ultime de la loi naturelle universelle et immuable. Donc le Christ, fondement ultime de la loi naturelle et universelle. Ce grand pape voulait que nous contemplions Jésus, l'homme parfait, qui n'a pas utilisé son corps comme un objet extrinsèque à sa personne, mais comme un élément constitutif de sa vie humaine. En lui sont révélées la grandeur et la beauté de la loi de la nature humaine. Il est important de souligner aussi que la nature humaine est une parce qu'elle vient d'un unique principe, le premier Adam, et parce qu'elle a été assumée par le Verbe, le nouvel Adam. S'il n'y avait pas cette unité de la nature humaine, on ne peut pas parler de loi naturelle. On ne peut pas parler de loi naturelle universelle et immuable. Donc cela, la loi naturelle présuppose cette unité de la nature humaine. Le chapitre 5 du texte de la CTI, donc Commission théologique internationale, a développé l'enseignement de Jean-Paul II en montrant que Jésus-Christ est l'accomplissement de la loi naturelle. En sa personne, en effet, il donne à voir une vie humaine exemplaire, pleinement conforme à la loi naturelle. Il est ainsi le critère ultime pour déchiffrer correctement quels sont les désirs naturels authentiques de l'homme quand ils ne sont pas occultés par les distorsions introduites par le péché et les passions déréglées. Jésus-Christ n'est pas seulement un modèle éthique à imiter, mais par et dans son mystère pascal, il est le sauveur qui donne aux hommes la possibilité réelle de mettre en œuvre la loi d'amour. Le mystère pascal culmine dans le don de l'Esprit Saint, l'esprit d'amour commun au Père et au Fils qui unit les disciples entre eux, au Christ et enfin au Père. En répandant l'amour de Dieu dans les cœurs, l'Esprit Saint devient le principe intérieur et la règle nouvelle de l'action des croyants. La loi nouvelle de l'Esprit est au service de la liberté. Avec la loi nouvelle, qui est une loi essentiellement intérieure, oui, c'est très important, loi essentiellement intérieure. Donc c'est la loi qui habite en moi, que je découvre en moi, que je trouve comme étant la loi parfaite de ma liberté. Hein, c'est Saint Jacques qui le dit, loi parfaite de liberté. Le désir d'autonomie et de liberté dans la vérité qui habite le cœur de l'homme atteint ici-bas sa plus parfaite réalisation. Et ça, je trouve, c'est magnifique, cette expression de la Commission théologique internationale qui est reprise Jean-Paul II, hein, pour bien montrer qu'il ne faut pas faire la guerre à ce désir d'autonomie de l'homme d'aujourd'hui, parce qu'on se trompe de guerre. Il ne faut pas faire la guerre à ce désir de liberté. Au contraire, c'est l'Esprit Saint qui nous permet d'atteindre la plénitude. Le désir d'autonomie et de liberté dans la vérité qui habite le cœur de l'homme atteint ici-bas sa plus parfaite réalisation. C'est du plus intime de la personne, habité par le Christ et transformé par l'Esprit, que jaillit son agir moral. Mais cette liberté est tout au service de l'amour. Vous, mes frères, dit saint Paul aux Galates, au chapitre 5, vous avez été appelés à la liberté. Seulement que cette liberté ne se tourne pas en prétexte pour la chair, mais par la charité, mettez-vous au service les uns des autres. La Vierge Marie, c'est la conclusion, l'Immaculée, la toute pure, a parfaitement accepté sa condition de créature, elle a obéi dans la confiance et l'amour à Dieu Créateur, elle a atteint le degré le plus élevé de liberté spirituelle pour une créature. En la contemplant, en la priant, en se laissant guider par elle, on comprend que la vraie liberté ne se trouve pas dans la désobéissance à la loi de Dieu, mais dans l'obéissance. Voilà. Alors, j'espère que je n'aurais pas été trop compliqué. Il est évident que c'est un sujet qui demande des mois et des mois de travail, mais je pense que vous voyez, vous avez bien compris la question, hein, la question de ce rapport liberté-loi. Et cette question de ce rapport liberté-loi, il faut le résoudre en répondant à l'homme moderne. Et il n'est plus aujourd'hui, on n'est plus dans un monde qui comprend l'obéissance. On n'est plus dans ce monde où le magistère a parlé, on obéit, on ne discute pas. Parce que si on est dans cette perspective, on fait rejeter la loi naturelle. Donc Jean-Paul II comprend l'homme moderne, il assume toute la tradition, et donc il veut faire comprendre à l'homme moderne qui veut de l'autonomie, qui veut sa liberté, que cette loi naturelle, c'est bien la loi que sa raison découvre comme la vraie loi de sa liberté. Et cette loi naturelle, elle atteint, on peut dire, son accomplissement lorsque l'homme a été libéré par le Christ et lorsque l'homme a reçu l'Esprit Saint, cette force intérieure, cette loi de l'Esprit qui lui fait découvrir que sa liberté ne se trouve que dans la sainteté. Voilà. Je pense que ça peut faire pour ce soir. Si vous avez quelques questions pour demain après-midi, on y répondra. Maintenant,